Bonjour, je m'appelle Héloïse et je suis journaliste chez Madines. Avec le soutien de Salesforce, nous avons lancé une nouvelle newsletter bimensuelle 100% conseil pour donner aux dirigeants et à leurs équipes les clés pour passer cette crise et continuer de faire grandir leur entreprise. L'une des thématiques abordées revient sur le maintien de la relation de confiance avec ses clients, et ce, même en temps de crise. Et le sujet n'est pas des moindres, puisque 97% des consommateurs considèrent la qualité du service client comme un critère clé dans le choix d'une marque. Dans cette interview, découvrez le retour d'expérience de Xavier Pinon, cofondateur du comparateur Selectra, qui nous explique comment et pourquoi ses clients lui font confiance. Bonjour Xavier, merci d'être parmi nous. Pour commencer, est-ce que
Bonjour
vous pouvez
Héloïse.
Nous présenter Selectra, son évolution et la place qu'a la relation client dans la gestion de votre entreprise?
Alors, Selectra, c'est un comparateur de prix pour les contrats de la maison, donc l'électricité, le gaz, l'internet, l'assurance. Finalement tout ce qui nous coûte cher en termes d'abonnement de la maison au quotidien. Et donc ça se destine soit aux consommateurs qui souhaitent changer de fournisseur pour faire des économies sur ces différents postes de dépenses, soit aux clients qui sont en situation de déménagement et qui veulent souscrire rapidement l'ensemble de leur contrat de la maison tout en faisant le bon choix. Donc voilà, ça c'est l'activité de Selectra. Et effectivement, la confiance des clients, c'est un vrai sujet, puisqu'on n'est pas une marque très connue à l'échelle nationale encore aujourd'hui, même si on a quand même plusieurs centaines de milliers de clients qui nous connaissent. Et donc la difficulté, ça va être de convaincre les clients de faire appel à nous, alors qu'ils connaissent peu notre marque. Donc on a pas mal de petites astuces pour ça. Je pense que la première chose à noter, c'est vraiment sur internet faire en sorte que le site comporte des éléments de réassurance qui puissent convaincre le client qu'il est au bon endroit pour faire son choix. Donc ça peut être à plein de moments différents du parcours. Je pense par exemple au comparateur où vous allez pouvoir expliquer par exemple au moment où vous lancez le comparateur qu'il y a 35 fournisseurs d'énergie proposant 70 offres qui ont été consultées et que vous pouvez retrouver dans la liste ci-dessous, en précisant que c'est une analyse exhaustive du marché, à la fois les fournisseurs partenaires de Selectra et les fournisseurs non partenaires. C'est une précision importante puisque on a beaucoup de comparateurs qui font une sélection sur le marché uniquement sur la base de qui les rémunère, et c'est pas le cas chez nous, mais c'est important de le communiquer au client au bon moment pour lui expliquer comment ça marche de façon transparente. Et il y a plein d'autres idées toujours dans cette même dynamique. Par exemple, si vous recueillez un IBAN sur Internet, bah, vous allez mettre un petit message de réassurance qui va dire « Nous ne ferons rien de votre IBAN tant que vous n'aurez pas confirmé et signé votre contrat. » Donc voilà, à chaque étape, bien être clair sur ce que vous allez faire avec les données du client.
Donc la transparence semble être une donnée clé. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, selon vous, on voit d'ailleurs sur Internet que les différents sites d'avis de consommateurs ne descendaient pas en dessous des 4,7 étoiles sur 5, si je ne me trompe pas. Donc la transparence et peut-être d'autres valeurs dans ce que vous portez sur la relation client ?
Oui, tout à fait. Alors il y a aussi la partie humaine. Le contact noué avec nos commerciaux, à chaque fois c'est une rencontre en fait, et du coup elle peut parfois être longue si jamais vous souscrivez tous les contrats à la fois et vous avez le temps de nouer une relation qui n'est pas celle que vous allez avoir avec un robot, qui n'est pas celle que vous allez avoir tout seul en ligne, mais vous allez avoir une vraie personne au bout du fil, et il peut y avoir de la complicité qui se crée, il peut y avoir des blagues qui se font. La difficulté en 2021, c'est que de plus en plus, on a tendance à avoir des scripts robotisés pour des histoires de qualité qui, à mon avis, dégradent énormément l'expérience du client et sont contre-productives et pourrissent beaucoup plus la vie des gens qu'ils n'arrangent de problème. Donc du coup, on est obligé de sortir de cette robotisation en disant des trucs du style « Attention, vous êtes prêts ? Là, je vais me transformer en robot pendant 1 minute 30. Je vais dire un truc. » Donc on est obligé de mettre à distance tellement c'est ridicule. Et je pense que c'est l'une des techniques qui existent pour sortir de ce monde déshumanisé Il y a un Vooch, je ne sais pas si vous voyez le dessinateur Vooch. Vous avez une boulangerie et vous avez la boulangère qui dit: attention, signez ici, je m'expose au risque bactériologique suite à la consommation de cette, écrivez, demi-baguette ordinaire. Voilà, bah on en a un peu là dans les scripts qui sont imposés. Et donc, si on n'en rit pas et si on ne les met pas à distance, on a du mal à remettre de l'humain dans tout ça. Et si vous avez ce contact avec cette personne qui n'a pas l'air d'être un robot, mais qui au contraire a l'air d'être sympa, qui arrive à créer de la complicité avec vous, bah vous allez avoir confiance en lui, évidemment, naturellement. Donc ça, c'est un autre facteur très important. Vous avez aussi, donc, comme vous l'avez cité, l'irréputation. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vérifier ce que disent les clients dans les commentaires. Et je pense que sur l'irréputation, ce qui est important aussi, c'est de répondre aux gens qui ne sont pas contents et de prendre leur cas en charge. Vous avez beau avoir 4,7, 4,8, 4,9 sur 5 avec des milliers d'avis, ce qui est notre cas, bah, il y a quand même des mauvaises expériences. Et donc, du coup, moi, ce qui me rassure en tant que consommateur, c'est quand la marque a répondu, a expliqué, a proposé une solution. Et du coup, on essaye de suivre tous ces avis qui reviennent vers nous de façon à systématiquement rebondir et montrer que ce n'est pas une préoccupation qui tombe dans le vide, mais qu'à chaque fois, on agit vraiment pour détricoter le cas du client, comprendre ce qui s'est passé et le satisfaire à la fin. Ensuite, il y a le sujet force de la marque, peut-être, dont on peut parler, puisque la force de la marque est un facteur de confiance évidemment très important. Du coup, on peut la travailler de plusieurs façons. D'une part, en travaillant sur la marque Selectra elle-même pour la faire connaître, mais aussi via des partenariats. On organise notamment des opérations d'achat groupé en partenariat avec des grandes marques où on va rassembler une communauté. Lui dire, bah voilà, vous pouvez vous préinscrire et tous ensemble, on va négocier une offre à tarif de groupe pour votre énergie, pour votre internet, etc. Et ensuite, on vous transmettra cette offre. L'appel d'offres, on va l'envoyer à tous les fournisseurs. On négocie, on choisit la meilleure offre qu'on a reçue, on vous la transmet par email et vous êtes alors libre soit d'y souscrire, soit d'y renoncer. Et donc, on fait ça, on mobilise des communautés autour de grandes marques. Alors, ça peut être des associations de consommateurs qui ont une légitimité très forte sur toutes ces questions-là. Ça peut être des médias également qui se développent de plus en plus sur ces thématiques. Ça peut être des organisations environnementales, donc comme le WWF France, avec lequel on organise des grands achats groupés d'énergie verte. Et donc, bien sûr, quand vous êtes en association avec une marque particulièrement légitime sur un thème, vous allez créer la confiance qui va vous permettre de réussir.
J'ai vu aussi que vous publiez souvent sur vos réseaux sociaux, notamment des bons plans hebdomadaires sur Facebook. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux sont un bon levier, une bonne solution à activer pour fidéliser et entretenir sa relation avec ses clients? Et selon vous, qu'est-ce qu'une bonne communication client?
Alors, bah, de mon côté, je dirais que les réseaux sociaux sont un outil à avoir pour que les clients notamment puissent se renseigner sur l'activité de la marque, la communication, et regarder s'ils sont en questionnement sur la confiance qu'ils peuvent accorder à une marque. Oui, ils peuvent aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'elle communique et se faire une idée. Mais pour nous, ce n'est pas un levier de communication très massif, puisque si vous regardez nos posts sur Facebook, sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, vous allez voir qu'on n'a pas tant d'engagement que ça. Donc c'est difficile pour une marque de construire la ligne éditoriale qui va permettre d'avoir un vrai impact sur le business et sur la confiance qui est générée dans la marque. Nous, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que paradoxalement, c'est plutôt LinkedIn qui fonctionne le mieux en termes de réseau social chez nous, parce que on va intéresser les gens sur plutôt l'histoire de notre entreprise, l'histoire de notre marque, qui est un peu particulière, et on a des choses à dire sur tous ces sujets un peu B2B, mais on aura beaucoup plus de mal à mobiliser des consommateurs finaux sur des sujets commerciaux. Sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas vraiment craqué ce sujet de comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour en faire soit un levier de vente, soit un levier de confiance.
Je voulais aussi donc revenir sur ce contexte de crise sanitaire et on voit que les consommateurs reconnaissent faire moins confiance aux entreprises en temps de crise. Est-ce que la relation client est selon vous plus que jamais stratégique dans ces périodes perturbées? Comment est-ce que vous avez, si vous l'avez fait, repensé la relation et le parcours client pendant cette période ou du moins entretenu cette relation client?
Pour nous, donc on est habitué au travail à distance de façon générale, puisqu'on n'a pas d'activité physique. Tout se fait soit sur Internet, soit par téléphone. Du coup, on n'a pas tellement changé l'approche qu'on a, à quelques exceptions près. On ne parle pas tout à fait aux gens de la même façon dans un contexte de crise. Si vous les avez au téléphone, vous allez avoir des phrases qui vont apparaître, par exemple « prenez soin de vous ». Ce n'est pas quelque chose qu'on disait très spontanément auparavant, et je trouve que ça se développe beaucoup plus dans le langage du quotidien, quelque chose qui montre que on a une attention particulière envers la personne et qu'on sait que c'est pas forcément un contexte qui se prête à l'épanouissement de chacun. Donc il y a eu ça comme changement, des petites choses dans le langage, dans la façon de communiquer. Et puis au moment du premier confinement en particulier, on a adapté notre communication avec nos clients plutôt sur la prospection, en faisant des publicités qui expliquaient avec le confinement généralisé, on a plus de clients qui déménagent, donc on a beaucoup moins d'appels. Donc on mettait en scène un téléconseiller qui était en télétravail chez lui et qui disait moi mon métier c'est de vous faire faire des économies, maintenant je suis chez moi et vous voyez je travaille dans ma chambre avec mon ordinateur portable, je m'ennuie en ce moment, on n'a pas beaucoup d'appels parce qu'il n'y a plus personne qui déménage, donc si vous aussi vous vous ennuyez chez vous et que vous voulez que je vous aide à reprendre toutes vos factures et à vous faire faire des économies dessus, n'hésitez pas. Donc voilà, on a aussi adapter, on va dire, la partie publicité pour s'adapter à un contexte qui, je pense, parlait à beaucoup de gens, et c'est une campagne qui a eu pas mal de succès pour nous.
Vous, chez Selectra, vous êtes aussi, donc historiquement, j'ai vu, bien implanté en Espagne, mais aussi dans d'autres pays européens, et plus récemment même au Japon, au Mexique et au Brésil notamment. Est-ce qu'il faut adapter sa relation client quand on s'internationalise sur de nouveaux marchés? Et si oui, comment est-ce que vous procédez chez Selectra?
Oui, il faut nécessairement s'adapter parce que les cultures ne sont pas les mêmes, les niveaux de connaissance de marché des consommateurs ne sont pas les mêmes. Donc si je prends deux exemples extrêmes, par exemple au Royaume-Uni, tout le monde change de fournisseur d'énergie comme de chemise depuis belle lurette, et donc tous les ans, tout le monde va comparer à la fin de son contrat pour regarder quel contrat choisir à l'issue des 1 an. Et c'est parfaitement normal. Du coup, vous ne vous adressez pas du tout à ces clients de la même façon que vous vous adressez à des clients français, où vous avez besoin d'être beaucoup plus dans l'explication du comment ça marche, pourquoi c'est une bonne idée de faire un choix éclairé en matière de fournisseur d'énergie plutôt que de se laisser porter par le poids de l'habitude et de la tradition. Donc tout un tas de problématiques qu'on retrouve pas du tout sur des marchés plus matures comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, etc. Et puis vous avez d'autres marchés évidemment très particuliers comme le Japon où donc là l'ouverture de marché est encore plus récente, c'est 2016. Donc vous avez là aussi un effort d'évangélisation à faire du consommateur beaucoup plus fort sur le comment ça marche. Et puis vous avez des habitudes de dialogue, de conversation qui sont pas du tout les mêmes. Et du coup, par exemple, vous avez beaucoup moins de directivité dans la façon dont nos commerciaux s'adressent aux consommateurs japonais. Et vous avez beaucoup plus de formules de politesse qui viennent un peu s'intercaler dans tous les sens, tout ce qu'on peut imaginer de subtilité dans la communication à la japonaise qui vient vraiment impacter la façon dont on s'adresse aux clients. Ouais.
Donc vous existez depuis 2007, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous assurez sur le long terme le suivi de la qualité de votre service client? Comment vous assurez ce suivi?
Alors il y a un quality manager, dont c'est le métier. Donc c'est un poste à part qui a toute une équipe sous lui qui va par exemple réaliser des écoutes des ventes, attribuer des notes qualité aux agents, répondre aux messages des clients, participer aux décisions qui ont trait à la vie de l'entreprise et représenter les aspects qualité, et puis également faire une veille sur tout ce qui est e-réputation pour aller vérifier ce qui se dit sur nous sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les outils de notation de services, et répondre aux clients, prendre en charge et montrer qu'on est là pour répondre aux clients qui ont une mauvaise expérience. C'est un poste qui, je pense, est important à avoir. Et ce qui est nécessaire, c'est aussi d'en définir les KPI, pour pouvoir améliorer en continu l'expérience de nos clients. Et donc, les KPI du Quality Manager, ils vont porter sur les notations qu'on a sur nos services, sur les différentes plateformes. Et donc, tous les mois, il y a un reporting spécial qui est construit sur ce sujet. Il va également porter sur le nombre de messages de clients mécontents qu'on a reçus, le nombre de rétractations qui se sont opérées sur les différents contrats qu'on a vendus et sur l'ensemble des mesures que nous, on a mis en place pour satisfaire des clients, par exemple le nombre de remboursements ou de petits cadeaux. On envoie régulièrement un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, juste une attention qui marque ah là je sais qu'on a on sait qu'on a fait une erreur et que vous en avez été victime, on est super désolé, on a fait tout ce qu'on a pu pour nous rattraper, on espère avoir réussi à reconquérir votre confiance, donc on essaye de faire des petits messages de ce style. Et donc voilà, donc on a un reporting qui va nous permettre de suivre tous ces indicateurs pour vérifier où on en est et qu'on est en amélioration continue.
J'ai aussi vu donc que certaines entreprises intègrent des innovations comme la réalité augmentée ou les hologrammes pour humaniser et dynamiser leur expérience client. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie et est-ce que chez Selectra, vous essayez de vous ouvrir à ce type d'innovation ou selon vous, c'est pas le cœur du sujet ?
Alors, je pense que ça va être intéressant à l'avenir. J'ai pas l'impression que les technologies soient vraiment prêtes aujourd'hui. Si je dis, moi, à mes clients, attendez, on va se connecter sur un outil de réalité virtuelle. J'espère que vous avez bien vos lunettes, Oculus, 3 Rift, je sais pas quoi. Bon, tout le monde va me dire que c'est pas vraiment le cas et qu'il voulait juste une conversation téléphonique rapide pour régler son problème rapidement. Du coup, je pense que c'est l'avenir parce que c'est ce qui va aussi permettre de réhumaniser la relation, je pense, le fait d'être plus immersif dans la qualité du dialogue. Mais je pense qu'on n'est pas du tout prêt aujourd'hui et que ça prendra des années avant qu'un système s'impose comme étant la norme et qu'elle permette ce type de communication à grande échelle. Mais je l'attends vraiment avec impatience parce que je crois beaucoup qu'on va sortir du côté robot qu'on impose dans tous les sens pour revenir à plus d'humains parce que c'est ce dont tout le monde a envie, je pense. Et donc je pense que ces outils sont au service du rétablissement de cette humanité parce qu'ils donnent de l'image en plus du son. Et en fait, on fait passer beaucoup, beaucoup de choses par l'image aussi.
Et donc pour finir, peut-être si vous pouviez donner trois grands conseils qui, selon vous, sont clés sur la thématique du maintien de la relation de confiance avec ses clients, quels seraient-ils ?
J'ai envie de dire la transparence. Si on est transparent avec le client, qu'on lui explique comment ça marche derrière la scène, je pense qu'on gagne nécessairement sa confiance. Et que c'est super positif pour nouer un lien de long terme qui va provoquer du business récurrent. Donc je dirais en premier la transparence, je dirais en deuxième la réactivité. Il n'est pas question qu'un client attende 72 heures ouvrées la réponse à un email alors qu'il est en difficulté. Donc il faut se bouger les fesses tout de suite, pas dans 3 jours. Et montrer qu'on est là et montrer qu'on a compris qu'il y avait un vrai problème. Donc voilà, le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment la réactivité. Et puis, le troisième conseil que je donnerais, c'est la personnalisation. Les clients n'ont pas envie d'être considérés comme des numéros. On ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un. On ne lui envoie pas le même petit cadeau, on ne lui envoie pas le même petit mot. Selon ce qu'on a senti de la personne concernée, si jamais on a déjà noué un lien humain avec elle. Il faut s'adapter, il faut sortir des processus standardisés et je pense qu'on y gagne à long terme, même si c'est un peu plus coûteux. Et c'est ce qu'attendent encore une fois les clients.
Je vous remercie beaucoup pour ces éclairages, Xavier, et je vous dis à bientôt sur Madines.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cette interview de Xavier Pinon et rendez-vous sur notre newsletter Madi Tips pour découvrir tous nos autres conseils aux dirigeants d'entreprise.